Les quatre saisons.
La politique est un cycle.
C'est le virus qui est maître du temps.
Une symphonie perpétuelle de déclarations, de promesses.
That's not Michael Jackson, hein?
Les échecs et les trahisons les plus douloureuses.
Ce sont les aléas de la politique.
Y rencontrent la gloire et les espoirs les plus vifs.
Je jure fidélité au roi.
Aussi sûrement qu'après l'hiver,
dehors.
Reviennent les beaux jours.
Dehors, dehors.
Le Vivaldi, c'est la fin de la Belgique.
Baptiste Tupin, Imad Messoudi.
Bonjour Baptiste.
Bonjour Imad.
Cette semaine, on s'intéresse à un concept omniprésent en politique, la promesse.
Promesse tenue, promesse bafouée.
Impossible de s'en passer. Les tenir, par contre, c'est moins évident.
Les quatre saisons. La politique belge racontée à l'ère de la Vivaldi.
Vous savez qu'on est un pays compliqué, hein ?
Printemps.
Dans cet épisode, on vous parle d'une arme de séduction redoutable en politique.
C'est un peu, si vous me permettez l'expression, le retour du cœur.
Aussi porteuse d'espoir.
Un temps très lumineux.
Que ces quelques jours de soleil en ce début de printemps.
Du soleil, du ciel bleu, des températures très agréables.
La promesse.
Nous estimons qu'il sera possible de permettre d'avoir plus de contacts sociaux.
C'est elle qui transforme soudain une idée, un programme politique.
Donner une perspective à l'Oreca.
En quelque chose de concret, de vendeur.
À l'extérieur, mais aussi à l'intérieur.
Tenir sa promesse,
c'était notre engagement.
C'est un graal en politique.
Promesse tenue.
Mais comme les températures estivales des derniers jours condamnées à replonger,
vendredi, changement de temps,
l'arme de la promesse se retourne rapidement contre celui qui la formule.
Caramel, bonbon et chocolat.
Ce serait une promesse en l'air.
Sur le marché volatile des recettes politiques, le cours de la promesse est d'ailleurs en chute libre ces derniers mois.
Le virus n'est pas impressionné par des dates, hein, par des promesses.
Le coronavirus,
je pense que cette pandémie
a brouillé les codes politiques.
Nous a remis avec les pieds sur terre.
Face à cet ennemi insaisissable,
ceci est une grande leçon d'humilité.
Les décideurs commencent à se méfier des promesses.
C'est dans notre tendance naturelle à vouloir regarder comment on peut faire les choses dans le futur. Mais on a vu que c'est dans la tendance naturelle du virus de rendre cette planification difficile.
Mais chasser le naturel, il revient au galop.
L'objectif reste le même. Et l'objectif est de passer un été à un esprit plus léger. C'est à notre portée de main.
Alors on s'est demandé cette semaine pourquoi de tout temps des hommes et des femmes politiques ont pris des engagements qu'ils ne pouvaient pas toujours tenir. Parce que des exemples de promesses politiques non tenues, on en a trouvé plein.
Nous, les socialistes, nous voulons mener un combat acharné pour ramener l'âge maximum de la pension à 65 ans.
Nous sommes le 1er mai 2019 en pleine campagne électorale. Mais deux ans plus tard, l'âge légal de départ à la pension reste bien fixé à 67 ans à partir de 2030.
La pension à 67 ans, depuis le début, je dis, c'est un mauvais combat.
Paul Magnette, qui a négocié l'accord de gouvernement pour le PS, n'en a visiblement pas fait un combat acharné.
Pour moi, ce n'était pas un objectif essentiel. On était là dans l'ordre du symbole.
La NVA n'a aucun partenaire côté francophone.
Ça, c'était pendant la campagne électorale de 2014.
Le vote pour la NVA est un vote pour la crise, est un vote pour le blocage. Nous détestons le nationalisme. Donc très clairement, nous n'avons rien à voir avec la NVA.
Quelques mois plus tard,
je jure fidélité au roi.
Charles Michel forme un gouvernement avec la NVA.
Sur la NVA, je me suis trompé. Je me suis trompé avant les élections.
Des exemples pareils, on pourrait en trouver dans tous les partis et dans tous les pays du monde. La fermeture de Guantanamo promise par Barack Obama tout au long de son mandat. La fameuse inversion de la courbe du chômage de François Hollande.
C'est vrai que j'ai fixé l'objectif de l'inversion de la courbe du chômage.
Alors même si le coronavirus ébranle temporairement les certitudes,
ce virus nous a remis avec les pieds sur terre.
Des promesses non tenues, il y en aura encore.
Ceci est une grande leçon d'humilité.
Car peut-on concevoir la politique sans engagement ? Et quelle est la force d'un engagement s'il n'est pas assorti d'une promesse ?
Nous voulons mener un combat acharné.
Faire de la politique, au fond, c'est peut-être tenter de réduire au maximum le risque de ne pas pouvoir tenir les promesses faites à l'électeur.
Promesses tenues.
Et on profite des premiers jours de beau temps pour exceptionnellement sortir de notre studio pour cet épisode des 4 saisons avec une question qui est au fond assez philosophique et donc on est allé chercher une autre expertise, Imad.
C'est celle de Vincent de Corbitaire, il est professeur de philosophie à l'ULB, titulaire de la chaire de philosophie sociale et politique contemporaine. Il préside le CRISP et donc c'est d'un côté le philosophe et puis de l'autre l'observateur politique que nous sommes venus interroger.
Allô ?
Oui, bonjour, c'est la RTBF.
Oui, je vous ouvre, vous prenez l'ascenseur jusqu'au 26e.
Merci.
Bonjour.
Alors, monsieur de Corbitaire, merci beaucoup de nous recevoir et d'accepter de parler avec nous de ce concept de la promesse en politique. Est-ce que faire de la politique, c'est nécessairement faire des promesses ? Est-ce qu'on peut imaginer la politique sans faire de promesses, sans engagement ?
La première question est de voir s'il faut distinguer la promesse et l'engagement. Vous avez employé les deux termes. Moi, j'aurais tendance à définir l'engagement comme une parole qui lie la volonté politique pour l'avenir. Vous êtes censé prendre un engagement en ayant réfléchi à un plan d'action et aux obstacles à franchir. Une promesse, c'est plutôt une manière de se projeter mentalement dans un avenir positif, meilleur, de manière beaucoup plus vague. On parle de terre promise. Quand un enfant dit « je promets d'être sage », il ne s'engage pas à poser tel ou tel acte ou à suivre telle ou telle règle, mais il rêve de pouvoir dire après coup qu'il aurait été sage et qu'il aurait été à la hauteur de ce qui est plutôt de l'ordre d'une sorte de fantasme. Et donc, la politique a évidemment besoin d'engagement. Dans notre système, elle est fondée sur les propositions, les programmes des partis qui se présentent à l'électeur en annonçant ce qu'ils s'engagent à faire s'ils en ont les moyens. Mais ces engagements sont présentés, on pourrait y revenir, surtout en Belgique, avec une certaine prudence. Nous ferons cela si nous sommes portés au pouvoir, si nous sommes dans une coalition avec des partenaires qui nous donnent la liberté d'eux, etc., etc. Faire des promesses, c'est quelque chose de plus risqué et souvent de plus vague. C'est de dessiner un horizon d'attente qui peut susciter des équivoques. Un bel exemple en France, c'est le discours du Burget de François Hollande dans la campagne présidentielle de 2012. Il proclame « Mon ennemi, c'est la finance ».
Dans cette bataille qui s'engage, je vais vous dire qui est mon adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance.
Il le fait à dessein. Une partie de l'électorat de gauche comprend qu'il va combattre la finance. Il n'a absolument pas dit qu'il s'engageait à combattre la finance. Mais dessiner un horizon de basculement, en quelque sorte, vers un monde épuré des dérives de la finance, qui lui a permis de remporter l'élection, mais qui, par contre, a conduit l'électorat de gauche à le juger très sévèrement une fois qu'il était au pouvoir, parce qu'il était très visible qu'il ne cherchait pas véritablement, loin de là, à réformer la finance. Et donc, l'engagement est inévitable en politique, en démocratie. La promesse est éventuellement évitable, cela étant. Je crois qu'elle est indispensable, je reviens à François Hollande, pour gagner certains scrutins électoraux. Quand vous vous abstenez de faire des promesses ou quand vous voulez être honnête, vous risquez de programmer votre défaite. Donc, si on distingue promesse et engagement, on comprend peut-être mieux en quoi la promesse est à la fois un vecteur puissant de réussite électorale et un vecteur puissant de sanctions post-électorales, parce que souvent, par définition, elle est intrépide, beaucoup trop fantasmatique, irréaliste.
Et est-ce qu'elle est encore plus intrépide dans la période actuelle, la période du coronavirus ?
Elle est toujours intrépide parce qu'il y a toujours des résistances à la réalité. Vous avez des limites budgétaires, vous avez des limites constitutionnelles, vous avez tel projet qui se brille sur le fait qu'il y a des directives européennes qui vous empêchent de le mettre en œuvre et qu'il faut un accord à une majorité qualifiée ou de tous les États membres de l'Union européenne pour modifier une directive, etc. etc.
Mais pour revenir à la Belgique, vous disiez tout à l'heure, c'était intéressant, le fait que parfois des engagements trop importants, trop forts par rapport à ce qu'avait dit François Hollande, par rapport à la finance, on a un exemple qui ressemble fort en Belgique avec ce qu'on vient d'entendre, la promesse du PS de se battre pour la pension à 65 ans. Promesse qui n'est pas... Enfin, promesse, engagement, quel que soit le terme. Là, pour le coup, quand on entend Paul Magnette, il n'a même pas parlé de ça. Pourquoi le PS, en 2019, fait cette promesse, prend cet engagement, alors qu'on sait que politiquement, c'était absolument impossible de revenir à 65 ans ? Pourquoi faire une telle promesse alors que typiquement, c'est le genre de choses qui va vous rattraper à un moment ou à un autre.
Alors, si j'ai bien entendu, Élodie Rupeau avait parlé de mener un combat acharné. Il n'a pas dit « je m'engage sur le résultat, je prends un engagement en quelque sorte sur les moyens. Mais nous Paul allons essayer.
Oui. » Paul Magnette dit « depuis le début, c'est un mauvais combat. »
Effectivement, quand Paul Magnette, après coup, dit « c'était perdu d'avance », là, on peut dire rétrospectivement, pour reprendre la distinction entre promesse et engagement, que ça n'était pas un engagement, c'était une promesse faite en campagne électorale, de manière à mobiliser un électorat pour qui ça a de l'importance, a fortiori sous l'aiguillon d'une montée en puissance électorale du PTB, qui était plus maximaliste encore sur ce genre de questions. Je vois difficilement une vie politique démocratique qui est basée sur une concurrence électorale, sur une compétition pour obtenir le plus de votes, le plus de sièges et une participation au pouvoir. Je vois difficilement une vie démocratique basée sur l'élection qui ne passe pas par des engagements dont une partie sont des promesses plus ou moins vaines. Mais la vie politique belge souffre peut-être plus d'un manque de promesses, d'utopie, d'horizon mobilisateur que d'un excès. C'est mon sentiment.
Et ce sont nous, parfois les médias, qui avons tendance à trop transformer certains engagements ou certains projets en promesses fermes.
Oh, vous n'êtes pas les seuls. Reparlons de la crise sanitaire. Je pense que Frans van den Broek n'a pas dit « le 1er mai, on va rouvrir l'Horeca ». Mais le secteur de l'Horeca a entendu que, puisqu'on nous parle d'une perspective pour le 1er mai, ils vont rouvrir. Donc il y a beaucoup d'équivoques aussi. Et chacun peut les alimenter, parce qu'évidemment, la promesse... Même involontaire, c'est ce qui va titiller l'imaginaire ou les aspirations de celui qui l'écoute. Et l'inconvénient de la promesse, c'est qu'elle ne lit pas celui qui la prononce, elle lit celui qui y croit. Si l'électeur y croit et vote en conséquence, lui, il a posé un acte qui a des conséquences concrètes, qui contribue à un rapport de force politique. Le responsable politique qui l'énonce peut, après coup, ne pas la tenir. Il a des conséquences éventuelles à subir si on garde la mémoire de cette affirmation intrépide, si on considère qu'il a trahi, et qu'on le sanctionne en un deuxième temps, lors d'un scrutin encore ultérieur. Donc c'est une dialectique assez complexe dans laquelle ceux qui sont les réceptacles de la promesse jouent un rôle actif, ils l'interprètent. Ils y croient ou pas. À eux d'essayer de faire le tri aussi. L'électeur est un être responsable. Imaginez une vie politique dont tous les acteurs seraient des réalistes prudents et honnêtes, disant « voilà ce que j'aimerais faire ». Et puis je vous rappelle, encore une fois, les limites budgétaires constitutionnelles européennes, et puis qu'il faut évidemment que soyez nombreux à voter pour nous, et puis il faudra composer avec les partenaires, il y aura un rapport de force, nous ne serons peut-être pas les plus puissants, et donc, entre ce que nous voudrions faire et ce que nous ferons, vous pouvez enlever 80% de notre programme. Est-ce que vous imaginez sérieusement de pouvoir mener une campagne électorale de cette manière-là? Certains le font de temps en temps. Certains font de la politique, non pas en présentant des programmes, des réformes, un horizon, mais en disant... Nous allons être de bons gestionnaires. Ça a été un slogan utilisé par le CVP-CDNV pendant une certaine époque, le Goudbestuur. Nous ne vous promettons pas la lune, nous sommes un parti responsable du gouvernement, nous allons gérer la Flandre et la Belgique de la manière la plus efficace, la plus technicienne, la plus raisonnable, sans dépenser de manière indue, sans vous promettre ce que l'on ne pourra pas réaliser. Je n'ai pas vérifié, je ne pense pas que le déclin prononcé du CVP-CDNV suive immédiatement cette période, mais sur la durée, on peut bien comprendre en quoi ce n'est pas porteur. Vous n'avez qu'une partie de l'électorat qui épouse cette conception-là de la politique. C'est un électorat souvent qui est très inscrit dans les milieux économiques, du management, pour qui l'ordre établi est globalement satisfaisant et qui n'attend rien d'autre que de gérer de la manière la plus efficace. Mais ça, c'est une petite partie de la population qui a cette attente-là devant la politique. Toutes les parties de la population qui rêvent sur des dossiers importants de renverser la table, de voir des réformes majeures s'accomplir dans tous les sens, sur le climat, sur l'immigration, sur les inégalités, sur le chômage, sur les inégalités de genre, etc. Toutes ces parties de la population qui ont des aspirations de réformes radicales n'attendent pas un discours dénué de promesses et d'engagements de simples gestionnaires prudents. Ça ne fait rêver personne.
Dès lors que l'électeur est acteur dans la promesse, qu'il a un rôle actif dans le fait d'y croire ou de ne pas y croire, comment est-ce qu'on explique aujourd'hui la perte de confiance dans la politique? C'est pas parce que la promesse a été galvaudée, qu'elle a été trop souvent malmenée ou pas respectée?
Alors, il y a bien évidemment, même en Belgique, trop de promesses un peu légères, un peu audacieuses, Trop de moments où on a l'impression que tel ou tel parti, tel ou tel responsable n'a pas vraiment essayé d'obtenir le résultat auquel il s'était engagé. Mais je pense qu'on a surtout un problème de décalage entre les attentes multiples et de plus en plus inquiètes et de plus en plus radicales des différents secteurs de la population face à des défis majeurs. Ça fait des décennies que nous sommes embourbés dans des difficultés structurelles dont nous ne parvenons pas à sortir. Un chômage endémique, le problème des inégalités socio-économiques et des exclusions, la question climatique, environnementale, de la santé publique. Pour ceux qui le ressentent ainsi, le malaise devant les vagues migratoires, la dilution des identités nationales, le problème du terrorisme, d'inspiration islamiste ou non, etc. Je pourrais évoquer d'autres sujets. Il y a un domaine dans lequel la démocratie a fait la preuve de son efficacité, c'est la modification des droits et des statuts des minorités. En commençant par les femmes, qui étaient des minorités au sens juridique, les minorités en termes d'orientation sexuelle, de langue, d'origine, etc. Là, on a vu, depuis une soixantaine d'années, toute une succession dans les pays européens de réformes qui n'étaient pas forcément imaginables il y a 70 ans, où là, la démocratie a fonctionné. Mais dans une série de domaines, vous butez, comme je le disais tout à l'heure, sur l'épaisseur de la réalité, les enjeux économiques. Je pense que le motif le plus profond de défiance à l'égard du politique, c'est l'écart entre ces aspirations populaires multiples et cette épaisseur des résistances à la réalité. Et dans la réalité, il y a évidemment les résistances des lobbies, parfois du monde économique, parfois d'autres types d'acteurs, et les rapports de force politique. Donc je ne vois pas par quel miracle on produirait des résultats satisfaisants. Déjà parce que les électeurs sont contradictoires entre eux. Si 80% de la population tire dans le même sens, 80% du Parlement tire dans le même sens, et là, vous avez des réformes radicales. Bon, ben regardez la composition de la Chambre, le nombre de partis et la puissance relative de chacun de ces partis.
Malgré le fait que les promesses, dans un contexte Covid, sont contre-productives, les promesses restent tout de même indispensables à la politique et à nous.
En fait. On a besoin de rêver.
Exactement.
Elles sont indispensables s'il y a dans la population des attentes de changement à un degré radical. Si vous ne relayez pas ces attentes de changement dans la compétition électorale, vous risquez d'être mort, purement et simplement. Il faut qu'elles soient sincères. Il faut surtout qu'on puisse mesurer l'effort réel de ceux qui ont lancé une promesse pour essayer de la réaliser autant que faire se peut, compte tenu des difficultés, des obstacles, des limites, des rapports de force politique, etc. etc. C'est ça la pierre de touche. Les électeurs peuvent être prompts à croire un peu trop vite à une promesse vague et à la surinterpréter. Une bonne partie de l'électorat est capable de mesurer, de comprendre que tel parti, tel responsable, s'est quand même démené et a essayé autant que possible. Je pense que ce discernement-là, on est capable de le faire. Et c'est ça qui m'a amené à dire, si on se borne à envoyer comme message aux électeurs qu'on va gérer au mieux l'état de fait établi, ben on n'a même plus besoin de la démocratie. On n'a pas besoin d'un système qui est fondé sur la demande au peuple de ce qu'est sa volonté politique telle qu'il l'exprime dans les urnes. Si c'est pour gérer, désigner une fois pour toutes une sorte de GIEC gouvernemental intra-belge, élargi à toute une série d'autres questions, c'est-à-dire un aréopage d'académiques de haut vol qui vont décider ce qui est bon pour le peuple.
Sans rêve, sans promesse, la démocratie est vouée à être une technocratie.
Bien évidemment, et ça n'est pas sa vocation.
Merci beaucoup.
On se retrouve après les vacances de Pâques.
Oui, on se retrouve après les vacances de Pâques. Nous, on prend 2 semaines de pause et profitez donc vous aussi de toutes les promesses que vous offre ce début de printemps.
À bientôt.
Les 4 saisons, un podcast de Baptiste Tupin et Imad Messoudi, mis en musique par Jérémy Boquet.